Bonjour à tous, bienvenue sur Direct en jeu. Aujourd'hui, nous sommes avec Corentin. Corentin, comment peut-on te définir en un mot, Corentin ? Bonjour, Corentin.
Respiration.
Exactement, respiration, respination. Respination, donc c'est effectivement cette entreprise ou cette activité que tu as donc créée suite à un parcours, alors dans complètement autre chose. Tu étais dans les finances à Londres, je crois.
Ressources humaines dans la banque en Angleterre, à la City, pendant 15 ans.
Aïe. Aujourd'hui, tu as quel âge ?
47 ans.
D'accord, et donc c'est une reconversion, prise de conscience, j'imagine, quelque part.
Une reconversion après un moment de doute, de perdition.
Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est respination ?
Respination, c'est le fil conducteur de l'activité autour de la respiration. Et englobe tout ce qui couvre yoga, technique de respiration.
D'accord.
Pour le bien-être, le bien-être physique, le bien-être mental, également la performance sportive.
D'accord.
Voilà.
Ah, tu résumes bien, hein. Tu vois, quand tu veux. On avait dit qu'on n'allait pas y passer 3 heures aujourd'hui, effectivement, on va essayer de faire court. Mais pour nos auditeurs, donc effectivement, cette activité, donc tu la proposes à tout type de profil, finalement, comme
Exactement.
Tu dis. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des groupes, des particuliers, des femmes enceintes, peut-être, éventuellement.
Alors oui, mais il faut faire attention.
Ouais.
En fonction du mois, de la partie de la grossesse, on y va doucement. Il y a des exercices à ne pas faire de respiration.
D'accord.
Le mieux, c'est de faire ça en amont, avant la grossesse. Comme ça, pendant la grossesse, la femme a la possibilité de recourir, d'être déjà plus à même d'avoir conscience de sa respiration, du diaphragme aussi, qui vient s'immobiliser de plus en plus avec ce monde qui s'agrandit et qui vient gêner la respiration, qui peut apporter également des problèmes de respiration suite à l'accouchement, parce qu'on va créer des mauvaises habitudes respiratoires lors de la grossesse potentiellement, en respirant plutôt par le haut, et c'est des choses qui peuvent rester ensuite. Donc dans la vie, on a à faire face à des événements, parfois des traumatismes, la grossesse n'en est pas forcément, mais qui vont apporter des nouvelles habitudes comportementales, et notamment respiratoires. La respiration en tant que comportement qui va ensuite influer sur notre physiologie, sur nos émotions, notre manière de penser, notre bien-être physique et notre bien-être mental.
Incroyable. Donc la respiration, elle fait tout ça, en fait.
Exactement.
C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Normalement, en général, on respire de façon naturelle. Sauf parfois certains, comme on dirait, sont en apnée aussi, sans s'en rendre compte également. Et ça, c'est vrai que du coup, ça leur enlève beaucoup d'énergie.
Exactement. Sauf quand l'apnée est contrôlée. Donc chez les yogis, on appelle la science de la respiration le pranayama. Je vulgarise un peu les choses.
Bien sûr, on connaît bien ce terme, effectivement.
Voilà. Et dans le pranayama, ce qui est presque le plus important sont les phases de rétention.
D'accord.
D'air, donc on appelle kumbhaka en sanskrit. Phase de rétention où du coup on va rentrer dans un état méditatif, un peu comme l'apnéiste qui va plonger sous l'eau, qui va chercher le relâchement le plus profond pour pouvoir aller plus loin dans sa performance, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais forcément vraiment
on
à la
parle
performance.
Pas de performance, effectivement.
Et la performance, on ne va pas la chercher, elle vient à nous-mêmes.
Bien sûr.
Mais effectivement, la respiration régule notre santé.
D'accord.
C'est par la respiration qu'on va réguler notre pH. C'est une respiration plus fluide, plus harmonieuse qui va faire que, par exemple, notre diaphragme va venir masser constamment toute la journée nos organes internes. Dans la mesure où le diaphragme est bien activé. Chez la plupart des gens, il est relativement rigide, solide, il manque de flexibilité. Et donc, du coup, on ne va pas avoir ce mouvement de péristaltisme qui va être stimulé par cette activité de la respiration.
Donc les gens qui sont entre guillemets trop stressés, c'est le cas quand même de beaucoup de personnes.
Et en surpoids.
Ouais. Donc tout ça, a priori, tu expliques tout ça à cause d'une mauvaise respiration, probablement.
Potentiellement. En tout cas, à chaque état émotionnel est associé une manière de respirer. Et si on prend un petit exemple par rapport au stress et un petit fact en chiffres, dans la ville de New York, aux États-Unis, 60% des déplacements d'ambulance se font pour des problèmes de dysfonctionnement respiratoire.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, dont en fait les dysfonctionnements respiratoires peuvent être la cause directe ou alors des symptômes d'autre chose. Mm-hmm. Mais 60% sont liés à des dysfonctionnements respiratoires.
D'accord.
Et pour continuer la petite histoire, dans la ville de New York encore, mais pour d'autres raisons, le maire de New York, Eric Adams, il y a un an et demi, a mis en place dans toutes les écoles.
Okay.
Ça doit aller chez les élèves de 7, je crois, à 12 ans.
Oui, c'est des basiques, en fait.
3 à 5 minutes de respiration consciente tous les jours.
Tout à fait.
Le niveau de maths, le niveau d'anglais aux États-Unis...
augmente. Ah oui, oui, avait baissé, bien sûr.
Ouais, terriblement. Mm-hmm. Et donc, ils cherchaient un moyen de pouvoir... Alors, j'ai essayé de regarder, de faire des recherches pour voir où ça en était. Après un an et demi de pratique, j'ai rien trouvé sur Internet.
Voilà. Ah, c'est dingue, ils ne donnent pas les résultats. Ça, c'est dommage.
Pas encore.
Ouais, ouais. Voilà. Mais effectivement, oui, j'avais des collègues comme ça, professeurs d'allemand, puisque j'ai pu être professeur d'allemand, à un moment donné, qui, en effet, avaient instauré ça en début de cours, quelques minutes comme ça, pour calmer aussi les élèves.
Exactement.
Et effectivement, oui, tout est... Enfin, voilà, on n'y pense pas assez, c'est des choses tellement évidentes et simples et basiques, où on se dit d'ailleurs, même, par exemple, toi, comment tu as, du coup, entre guillemets, appris tout ça, ou comment tu as appréhendé toute cette problématique, tout ce sujet de la respiration? Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Tu parlais de formation, alors, plutôt yogi, tu m'as parlé de ça.
Le yoga, malheureusement, de mon expérience dans le monde du yoga, on va pas très loin dans le détail.
Ouais.
On nous explique comment respirer, on nous montre ces techniques de respiration complexe, respiration yogique, où on engage l'abdomen,
la cage thoracique,
au niveau des clavicules, mais personne ne va vraiment, vraiment dans les détails, aussi bien au niveau de la biomécanique respiratoire que de la biochimie respiratoire, et notamment, là, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer la tolérance au CO2, le CO2 qui est... ce pourquoi on va respirer. C'est pas le manque d'oxygène qui fait que je vais avoir envie de respirer, c'est l'augmentation du taux de CO2. Tout simplement.
Okay.
Donc, si je retiens mon souffle, j'ai envie de respirer, je pourrais retenir mon souffle suffisamment longtemps, même avec cette envie de respirer, parce qu'il me reste encore beaucoup d'oxygène, mais c'est le CO2 qui va me donner cette envie de respirer.
Okay.
Et malheureusement, beaucoup de gens ont une tolérance au CO2 relativement faible, qui fait qu'ils vont respirer beaucoup plus souvent, donc en termes de cycle respiratoire, avec des volumes plus importants aussi, et donc qui déséquilibrent un petit peu leur physiologie. Alors le corps s'adapte, donc il n'y a pas de problème, mais à terme, ça peut poser des soucis, et très intéressant de voir que chez les yogis, on estime l'espérance de vie en fonction du nombre de respirations. Voilà. Et donc, il y a des formations qui permettent d'aller un peu plus loin dans tout ça. Moi, j'ai commencé par cette formation chez Breathology, qui est dispensée par un apnéiste, Stig Severinsen, un Danois.
Et ça se passe où, alors, cette formation?
Alors, en ligne, parce que depuis le Covid, il fait tout en ligne. Donc, on a des visios, on fait des petits travaux toutes les semaines.
Mais donc, c'est une personne qui est de base, de quelle origine?
Il est Danois.
Danois, oui, c'est
Danois.
Ça.
Danois. Il est donc apnéiste, mais qui combine, lui, justement, respiration, yoga, technique d'apnée, avec aussi cette reconnaissance de cette phase de rétention d'air. Alors, forcément, en tant qu'apnéiste, hein, c'est primordial, mais qui est très importante chez les yogis.
Okay.
Et donc, il combine tout ça pour aussi, notamment, alors, recréer de bonnes habitudes respiratoires. On crée presque tous de mauvaises habitudes respiratoires, mais aussi des bonnes. Donc, les bonnes, il faut les garder. Et donc, on va décortiquer un petit peu la manière dont la personne respire. Première séance, je demande à la personne de s'allonger par terre et j'observe. Je fais faire des petits exercices tout simples de relaxation.
Okay.
Savoir se relâcher, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend à nous stresser.
Tout à fait.
Et quand on est stressé, la respiration n'est plus la même. La respiration est plus ou moins bloquée, plus ou moins stressée. Et donc, on débloque déjà la respiration rien que par le relâchement. Voilà. D'autres formations comme Oxygen Advantage qui va travailler ici un peu plus justement sur tout ce qui est tolérance au CO2, avec aussi, pour aller plus loin, des exercices de simulation d'entraînement en altitude.
D'accord.
En utilisant des termes techniques, entraînement hypoxique, hypercapnique, qui vont perdre un peu tout le monde ici, peut-être, mais pour retravailler cette tolérance au CO2,
d'accord,
pour arriver à une respiration plus fine, plus harmonieuse, un nombre de cycles respiratoires plus faible par minute,
mm-hmm,
et donc un mental plus calme, mm-hmm, également.
Bien sûr.
Et tout ça pour retrouver un équilibre au niveau du mental, du corps, et puis on va parler aussi de l'esprit, de l'âme,
bien sûr, bien
pour
sûr,
aller un peu plus loin chez les yogis, et qu'on le veuille ou non, quand on commence à toucher à la respiration, il y a toujours un petit côté spirituel qui vient se rajouter par là,
mm-hmm,
sans qu'on aille le chercher.
D'accord. Et alors, donc, les personnes que tu accompagnes n'ont pas nécessairement besoin de faire du yoga avec toi?
Pas du tout.
Vous travaillez que sur la respiration?
Alors, tout dépend du but recherché, mm-hmm, de l'intérêt de la personne. J'ai fait des séances uniquement en respiration,
mm-hmm,
où je n'ai pas parlé de yoga. Parfois, je vais rajouter une petite note yogique, mm-hmm, parce que j'enseigne le yoga également.
Mm-hmm.
Mais on va vraiment retravailler sur la mécanique respiratoire et apprendre aux gens à respirer, à être en phase avec leur respiration, à observer ce lien entre l'évolution de leurs émotions, l'état, mm-hmm, de leurs émotions dans la vie quotidienne, et l'état de leur respiration, et voir comment ça change. Donc, quand je vais m'énerver au volant dans la voiture, mmh, qu'est-ce qui se passe? Augmentation du rythme cardiaque, on va respirer plus rapidement, on va commencer à perdre un peu le contrôle. Essayer de commencer par l'observation de tout ça, puis on avance à mesure des séances jusqu'à donner une petite routine respiratoire,
mmh,
qui peut aller de 5 minutes à 10 minutes, voire même une heure, s'il y a des gens qui veulent.
D'accord.
Et pour mettre en place cette petite routine régulièrement tous les jours.
Mm-hmm.
Comme un métronome, c'est vraiment le principe de neuroplasticité,
mm-hmm,
et de commencer à réengager des activités de manière récurrente. La répétition est importante, qui va faire qu'on va créer de nouvelles routes neuronales.
Bien sûr.
Des
nouvelles habitudes, du coup.
Exactement, nouvelles, mm-hmm, habitudes qui vont contribuer à ce bien-être général.
Voilà,
toujours répéter sa petite routine tous les jours.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que tu penses, ça c'est une question un peu idiote, hein, mais est-ce que du coup la respiration, telle que tu l'enseignes, telle que tu la pratiques, est-ce que c'est quelque chose qu'on considère aujourd'hui comme de la médecine douce? Est-ce que c'est une pratique en soi, comme, j'en sais rien, comme la naturopathie, comme l'ostéopathie ou autre, etc., etc., comme, j'en sais rien, la sophrologie, puisque là-dessus, effectivement, on est quand même sur le souffle et la respiration, pour le coup. Donc, est-ce que toi, justement, ça s'apparente légèrement à la sophrologie, ou c'est vraiment une autre méthode?
Alors, ça s'apparente un peu à la sophrologie. Mm-hmm. La sophrologie est issue du yoga, notamment, mm-hmm, et d'autres pratiques orientales,
mm-hmm,
qui viennent d'Asie essentiellement.
D'accord.
Mais j'aime pas trop parler forcément de médecine douce,
ouais,
après,
ouais,
on met le mot qu'on veut
bien
dessus.
Sûr, bien,
hein,
sûr.
Parce que, qu'on le veuille ou non, on respire tous les jours.
Bien sûr.
Donc, qu'il y ait de la médecine ou pas, mm-hmm, on respire. On a juste perdu,
mm-hmm,
le pied à l'étrier d'une respiration, on va dire, correcte et plus, mm-hmm, optimisée, plus optimale.
Ouais.
Et le but, c'est de réapprendre à respirer normalement.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que c'est une médecine douce, ou pour moi c'est réapprendre à respirer correctement.
Oui, faut le faire, en fait, faut le réinstaurer de façon entre guillemets définitive. C'est pas une petite cure comme ça parce qu'on en a besoin sur le moment, mais c'est pour toujours, en fait.
Exactement. Et une fois qu'on a pris conscience de ça,
mm-hmm,
ça reste avec nous tous les jours, à tout moment,
mm-hmm,
qui permet de se reconnecter au moment présent aussi.
Mm-hmm, bien sûr.
Et vraiment, si on regarde certaines tribus dans le monde,
mm-hmm,
un peu éloigné de cette société industrialisée qui est venue engager cette création de mauvaises habitudes respiratoires,
ouais,
notamment, mais pas que. Beaucoup de tribus ne respirent que par le nez,
mm-hmm,
la bouche fermée.
Mm-hmm.
Il y avait cet Américain, George Catlin, dans les années 1850, qui est parti dans toutes les tribus amérindiennes,
mm-hmm,
et qui se demandait pourquoi tous ces Indiens avaient un sourire si blanc, une denture parfaite,
ouais,
aucun, ouais, problème de dents comme on peut voir dans notre société,
ouais,
actuelle.
Ouais, ouais.
Et ben, il respirait que par le nez, il faisait tout que par le nez.
Okay.
Voilà. D'autres tribus, ça va même plus loin. Au Mexique, une tribu qui existe encore, je me rappelle plus de leur nom, qui passe leur temps à courir d'un point à un autre.
Mm-hmm.
Ils peuvent courir un marathon tous les jours en respirant que par le nez,
ouais, ouais,
sans être essoufflés. Voilà. Donc c'est un peu aussi. Donc là, on pousse un peu les choses un peu loin, mais on est fait pour respirer que par le nez.
Mm-hmm.
Beaucoup de personnes respirent par la bouche, on ne sait plus faire d'activité physique maintenant sans respirer par le nez, on respire par la bouche, et c'est ça aussi que j'essaye de faire apprendre, c'est qu'on peut engager de l'activité physique jusqu'à un certain niveau d'intensité en ne respirant que par le nez pour de une meilleure optimisation. On peut parler de performance, mais sans parler de performance,
bien sûr, bien sûr.
Mais une meilleure récupération, un effort bien mieux géré, bien moins stressant pour le corps. On ne cherche pas à créer de stress pour le corps.
Ouais.
Et donc, quand la respiration n'est pas en harmonie avec notre nature, on va créer des déséquilibres. Donc, ce qu'on cherche, c'est juste retrouver cet équilibre naturel.
Mm-hmm.
Médecine douce ou pas, je ne sais pas.
Oui,
c'est revenir en fait à notre source d'humain qui respirait correctement. Dans
bien
le
sûr,
passé, les animaux savent très bien respirer. On leur apprend pas. On nous apprend pas quand on est. On respire toujours très bien. On perd juste l'habitude.
Tout à fait. Eh bien, très bien. Et alors, donc, si on veut effectivement te joindre, on peut te joindre donc soit via ton site internet, ton Instagram, et du coup, tu te déplaces potentiellement aussi en France. Tu fais peut-être des stages de temps en temps. Enfin, tout est envisageable.
En France, à l'étranger, j'ai beaucoup fait de cours en visio. Même le dernier, un rugbyman, on a tout fait en visio, sauf au début. Je me déplace, je fais du visio, des stages sont à prévoir. Ça peut être uniquement du yoga, ça peut être découverte de la respiration, on travaille que la respiration. En y incorporant peut-être des techniques de yoga. J'incorpore des techniques de préparation mentale aussi. Visualisation, imagerie, en utilisant les cinq sens. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a tellement d'informations intéressantes à donner. Et en utilisant aussi un peu de programmation neurolinguistique. Que je rajoute potentiellement dans tout ça. Mais c'est en fonction vraiment des intérêts, du but recherché de différentes personnes, entreprises, ateliers,
groupes. Et magnifique. Et une séance en moyenne dure combien de temps? Ça, pareil, c'est selon?
C'est selon les personnes. J'aime bien prendre le temps, une heure et demie, pour bien couvrir. En une heure, on peut le faire. En une heure et demie, on a le temps parce qu'on commence par un petit débrief au début. Comprendre les difficultés, ce qui s'est passé depuis la dernière séance, parce que je donne des petits devoirs à faire.
Bien sûr.
Pas beaucoup, mais des petites pratiques à faire.
Et surtout, est-ce qu'au départ, quand tu t'entretiens avec la personne, d'abord il y a la rencontre, vous rencontrez pour une bonne raison, parce qu'elle comprend que tu fais ça et qu'elle a un besoin, quelque part. Et donc, du coup, d'abord, j'imagine que tu analyses un petit peu quelle est sa situation.
Tout à fait.
Là où il y a des choses, entre guillemets, qui ne vont pas, quelque part. Mmh. Et donc, une fois que ce bilan est fait, après, effectivement, vous travaillez sur...
Retravailler cette respiration. Et une personne peut respirer correctement, mais on peut toujours l'optimiser.
Bien sûr.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un travail tout aussi long. C'est juste qu'on aura déjà de meilleures bases sur lesquelles travailler.
D'accord.
Et effectivement, je débute avec... J'ai un questionnaire que je fais remplir pour évaluer la fonctionnalité et la dysfonctionnalité respiratoire, en analysant différents symptômes et qui me permettent ensuite d'avoir un peu ma feuille de route et de présenter un plan à la personne que je vais accompagner.
Ok. Magnifique. Bon, merci beaucoup en tout cas, Corentin.
Avec plaisir.
Et donc, ton site, c'est respination.com.
.com.
Très bien. Merci, et puis à bientôt.
À très bientôt.
Merci.